Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour un numéro consacré à Saint Joseph que nous avons fêté la semaine dernière, le 19, mais à qui l'Église catholique dédie tout le mois de mars, qui était le père nourricier de Jésus et l'époux de Marie. Que sait-on du personnage historique de sa vie et de ses relations avec le Christ? Quelle place tient-il parmi les saints? Quel culte, quelle dévotion lui sont-ils rendus? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de cette émission. Et pour nous aider à mieux connaître Saint Joseph, j'ai invité le père Clément Bonou, membre de l'Institut des Frères Franciscains de l'Immaculée. Bonjour mon père et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à parler de ce personnage de l'Évangile, assez méconnu finalement, mais pour qui vous avez une affection toute particulière, je crois.
Merci Eric, merci pour l'invitation, je salue les auditrices et auditeurs. Oui, Saint Joseph est très lié à mon institut de franciscains de l'Immaculée. Quand on parle de franciscains de l'Immaculée, nous avons une dévotion particulière à la Vierge Marie. Et qui parle de la Vierge Marie ne peut pas mettre à part Saint Joseph et tout est lié. Alors dans nos communautés, nous avons toujours dans notre chapelle la Vierge Marie, Saint Joseph. Et Saint Joseph est très lié aussi à Saint François Assise par sa discrétion, son humilité, nous en parlerons. Et tout cela rentre dans notre dévotion mariale, dans notre mission d'être le reflet de la présence de Dieu, la présence mariale, d'accoucher le Christ dans les cœurs.
Nous allons nous intéresser tout d'abord à la biographie, si l'on peut dire, en tout cas aux éléments biographiques que l'on connaît de Joseph. Que sait-on de sa vie? Et je crois que pour ça, il faut se reporter aux évangiles et notamment aux évangiles de Matthieu et Luc, où il apparaît pour la première fois.
Oui, pour parler de Saint Joseph, on ne peut que parler de ses origines, l'origine biblique et aussi des révélations privées et sa célébration. L'origine biblique, nous avons ces deux évangiles, Matthieu et Luc. Matthieu et Luc, ce sont des évangélistes qui ont parlé de l'enfance de Jésus. Alors, parler de l'enfance de Jésus, ça évoque toujours Saint Joseph, même si chacun l'évoque d'une manière différente. Eh bien, les évangiles ne donnent pas de détails sur sa jeunesse, mais son intervention dans le plan du salut, son intervention dans la vie de la Vierge Marie en vue de sa mission. Eh bien, c'est ce que les évangélistes nous proposent, surtout Saint Matthieu et Saint Luc. Saint Luc a été plus en détail sur l'enfance de Jésus en évoquant Saint Joseph. On peut se poser la question, pourquoi le silence de Marc et peut-être de Saint Jean aussi? L'objectif pour ces évangélistes, c'est de parler de la divinité de Jésus. Et donc, ce n'était pas pour eux, parce que chacun qui présente le récit de la vie de Jésus a un objectif donné. Alors, donc, on comprend bien pourquoi certains évangélistes n'évoquent pas l'enfance de Jésus et par ricochet, la Vierge Marie, son lien avec Saint Joseph.
Il y a une chose qui transparaît tout de même selon certains auteurs chrétiens, et notamment des pères de l'Église, c'est que Joseph serait un lointain descendant d'Abraham et du roi David.
Alors, la tradition présente déjà Joseph dans la ligne de David. Et qu'est-ce que nous en savons? C'est l'Évangile, c'est la généalogie, et cette généalogie est prouvée chez les Juifs, dans le langage sémitique, pour reconnaître quelqu'un, on remonte à sa généalogie. Et c'est la généalogie de Joseph, le charpentier, et qu'on remonte du père, du grand-père. Et voilà, on voit, la tradition nous montre que Joseph est issu de la lignée de David. C'est l'Évangile qui nous le montre, surtout Matthieu.
Comment est présenté Joseph dans les évangiles de Saint Matthieu et de Saint Luc en tant que personne? Le terme qui apparaît, c'est que ce serait un homme juste.
Un homme juste, un homme obéissant à la volonté de Dieu. Joseph le juste, Joseph qui écoute la voix de Dieu et qui obéit. C'est cela qui fait le caractère même de la personne de Saint Joseph, et qui ne parle pas, mais qui agit. C'est un homme juste. Être juste dans la Bible, c'est avoir une relation intime avec Dieu. Le juste, quand on parle du juste dans les psaumes, c'est celui qui est accroché à Dieu, celui qui est obéissant à Dieu. Et on attribue cela, on utilise cette expression aussi pour Abraham et pour Moïse. Ce sont des gens qui étaient en relation avec Dieu. Joseph est en relation avec Dieu pour respecter, être dans la ligne du plan de Dieu.
Et ses relations avec Jésus, que nous en disent les évangiles?
Sa relation avec Jésus, c'est surtout son rôle dans la Sainte Famille, comme protecteur de la Sainte Famille, comme protecteur aussi du plan de Dieu. C'est cela que nous retrouvons dans, j'allais dire, ses rêves, parce que Dieu lui parle, Dieu s'adresse à Saint Joseph pour protéger le plan de salut. Alors, son lien avec Jésus, c'est d'abord sa protection du plan de Dieu en Marie. Et à la naissance de Jésus, il a protégé, non seulement au niveau de la fuite en Égypte, Saint Joseph a été l'homme qui agit, qui ne parle pas, mais qui respecte le plan de Dieu. Il a été le protecteur, non seulement de la Sainte Famille, mais de l'enfant Jésus. Souvenez-vous du massacre des innocents. Alors, qui a porté, qui a protégé et qui a accompagné la fuite en Égypte? C'est Joseph. Marie, comme une femme, ne peut pas prendre cette entreprise en main. C'est Joseph, déjà en protégeant l'œuvre de Dieu en Marie par l'Esprit Saint, déjà en ne renvoyant pas Marie, et à la naissance, était là, qui l'a accompagné. Et jusque dans cette grotte de Bethléem dont on parle, et qui a aussi protégé après. C'est Joseph. Donc le lien avec Joseph, Jésus, Joseph, c'est vraiment un lien étroit selon le plan de Dieu. Souvenez-vous aussi le retrouvement au temple. Marie disait, ton père et moi t'avons cherché. Cette présence discrète et agissante est vraiment efficace.
Le métier de Joseph, on a tous appris qu'il était charpentier, mais est-ce qu'on est certain que c'est bien le métier qu'il exerçait précisément?
Alors, cela a un fond de langage. Alors, la traduction de la Bible, vous savez, de l'hébreu en grec, tout cela. L'expression qui est utilisée dans la langue grecque, c'est tekton. Cette expression que nous retrouvons dans Matthieu 13, 55, et on retrouve cela aussi dans Marc 6, c'est charpentier qu'on a traduit. Mais cette expression, à la base, veut dire quoi? C'est un artisan. Un artisan travailleur.
Ce qu'on appellera un artisan du bâtiment aujourd'hui.
Exactement.
Avec tous les métiers qu'il peut y avoir.
Si on veut utiliser,
autour.
Eric, l'expression plus moderne, BTP.
Oui, voilà. C'est un artisan
c'est
du BTP.
Il touchait à tout. C'est un travailleur. On voulait exprimer son travail qu'il faisait, et puisque tecton veut dire aussi travailler du bois, travailler la pierre aussi, travailler la construction.
Ça veut dire que c'était un bâtisseur.
C'est un bâtisseur. C'est un travailleur, s'il faut revenir encore à l'expression artisan. Artisan touche à tout.
On trouve aussi une traduction de tecton qui pourrait vouloir dire homme sage, en tout cas synonyme d'homme sage. On a dit que c'était un homme juste, il semblerait que c'était aussi un homme sage.
La sagesse dans ce sens, vous savez, celui qui travaille, celui qui prend du temps à être occupé à quelque chose, reflète le plan de Dieu. Et donc cette sagesse qu'on attribue vraiment à celui qui travaille, il était assidu à son travail, il aimait le travail, et puis il se mettait au service des autres. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est en l'air, voilà.
Alors, sur les relations avec Jésus, le dernier épisode dans lequel Joseph est cité, c'est lors du pèlerinage familial à Jérusalem, lorsque Jésus est présenté, se retrouve au temple. Il a 12 ans, Jésus, oui. À ce moment-là. Et c'est le dernier instant où apparaît Joseph. Ce qui laisse supposer que lorsque Jésus entrera dans sa vie publique, les trois dernières années de sa vie, Joseph était déjà mort, sans doute.
Alors, la déduction est évidente. La dernière intervention, on a senti parler de Joseph, effectivement, c'est au moment du retrouvement au temple. Et après ça, silence radio. Et ce qu'on peut déduire aussi, c'est que la première apparition, le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, eh bien, il est dit dans l'évangile selon saint Jean que Jésus était invité, Marie était invitée. On n'a pas mentionné Joseph.
Joseph n'apparaît pas.
Alors, donc c'était le début de la manifestation publique, les épiphanies de Jésus. Donc on a supposé que déjà, avant la vie publique, le ministère public de Jésus, eh bien, Joseph était déjà mort, il était déjà dans la gloire de Dieu. Et puis quand vous lisez aussi les 3 années de la vie publique de Jésus, aucun évangéliste ne mentionne sa présence. Et puis, si au pied de la croix, l'élément suprême, femme, voici ton fils, en le disant à Jean, et à Jean, voici ta mère. Alors, on a supposé que si Joseph était encore là, eh bien, il n'allait pas laisser Marie, il devait être présent. Alors, des suppositions vraies, évidentes, montrent que Joseph était déjà auprès de Dieu avant le ministère public de Jésus.
Il y a aussi une tradition orale attribuée, liée à saint Jérôme, Jérôme de Stridon, qui est reprise par l'Église, selon laquelle Joseph s'était consacré à Dieu avant de connaître la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Je crois que c'est une tradition. On a lu, on voit dans les documents de l'Église, Jérôme nous transmet cette consécration de Joseph à Dieu. Il s'était consacré à Dieu avant de connaître Marie. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi on parle des frères et sœurs de Jésus qui est mentionné dans les Écritures. Ce sont en réalité des cousins et cousins proches. Et parce que dans la langue sémitique, vous savez, il n'y a pas l'expression cousin.
Cousin, ça n'existe pas.
Et dans ma tradition, je suis africain, et surtout en Afrique subsaharienne, l'expression cousin n'existe pas dans les langues. Et quand vous voyez un Africain, il dit, mais c'est mon frère. Il faut creuser pour voir que c'est son cousin, c'est le frère.
Cousin germain.
Voilà. Alors, donc c'est pour cela que les évangélistes parlent des frères et sœurs de Jésus en parlant des parents éloignés. Or, Jérôme nous précise encore pour parler, pour expliquer aussi cette expression qu'on retrouve dans les évangiles et que certains trouvent pour dire que bon, Marie avait d'autres fils, et si bien qu'elle n'est pas immaculée, pour remettre en cause le caractère immaculé du plan de Dieu dans la vie de la Vierge Marie, Jérôme nous révèle cette consécration de Joseph avant de connaître Marie. Et là, ça montre aussi le caractère unique, immaculé de Marie et aussi la sainteté, la sagesse, Joseph, l'homme juste qui entre dans le plan de Dieu.
Alors, on parlait tout à l'heure de l'évangile de Marc dans laquelle Joseph est absent. Et effectivement, Jésus est appelé fils de Marie dans l'évangile de Marc. On ne trouve jamais trace de fils de Joseph.
Cela est dans la ligne même du plan de Dieu. Et Dieu a voulu réaliser son plan à travers Marie. Et aussi, Jésus est fils de Dieu, il est homme et fils de Dieu. Pleinement Dieu et pleinement homme.
Pleinement humain.
Humain. Alors, ce que nous découvrons, Joseph, nous l'avons évoqué cela, est de la lignée de David. Et vous savez, la lignée aussi, au niveau des Juifs, c'est à travers la mère.
La mère, toujours la mère.
Et aussi, l'autre expression, l'autre dénomination, je ne voudrais pas rentrer dans des démonstrations théologiques ici, eh bien, fils de Marie montre aussi déjà le lien avec l'Annonciation. Tu l'appelleras Jésus. L'ange Gabriel s'est adressé à la Vierge Marie. Il y a le lien davidique et qui remonte bien sûr à Abraham, le plan de Dieu de ta descendance. Cette expression de descendance montre, j'allais exprimer cela en termes de lignée par Marie, montre la ligne, le fil rouge qui part de l'Ancien Testament jusqu'à Marie et qui vient à nous. Et ça, les deux se rejoignent au niveau humain et au niveau divin.
On revient à Matthieu. Dans son évangile, il raconte quatre rêves dans lesquels Joseph est informé de manière surnaturelle avant et après la naissance de Jésus. Que racontent ces rêves, ces quatre rêves ?
On retrouve tout cela dans l'évangile de Matthieu d'abord. C'est le chapitre premier de l'évangile selon saint Matthieu, les versets 20 et 21. D'abord, d'accepter Marie comme épouse. L'ange lui dit de ne pas craindre de prendre Marie chez lui. Ça, c'est le premier rêve. Enfin, la première expression du plan de Dieu dans la vie de saint Joseph. Et aussi la fuite en Égypte. Après la naissance de Jésus, Joseph est averti qu'Hérode cherche à tuer cet enfant et il part en Égypte avec Marie et l'enfant. Nous retrouvons cela toujours dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est le chapitre 2 maintenant. Et il fait le retour. L'ange lui dit que ceux qui en voulaient la vie de l'enfant sont déjà morts. Il peut revenir maintenant. Vous voyez, cette connexion de Joseph avec l'ange est toujours dans ses songes. Le quatrième songe, c'est l'ange lui dit, par prudence, Joseph s'établit en Galilée, à Nazareth. Matthieu 2, verset 22.
Il lui dit de ne pas retourner en Judée.
Exactement. Donc, il se retire en Galilée. Vous voyez toute cette connexion interne avec Dieu, intérieurement en Joseph. Et il rentre dans le plan de Dieu.
Il est là pour réaliser le plan de Dieu.
Alors, celui qui agit et ne parle pas, mais en connexion avec Dieu.
Et celui, pour revenir à ce que vous disiez au début de l'émission, qui protège.
Qui protège. C'est le père protecteur de la Sainte Famille. Ce n'est pas seulement de Jésus. Il protège aussi la Vierge Marie. Donc, c'est le père protecteur. On dit souvent parfois père adoptif, mais c'est le père protecteur du plan de Dieu. Moi, je l'ajoute souvent, protecteur du plan de Dieu.
Vous préférez père adoptif ou père nourricier de Jésus? Parce qu'on lit parfois les deux expressions.
Père nourricier, humainement, Eric, un père, imaginez tout ce qu'il a fait, non seulement au niveau de avant la naissance de Jésus, la protection, nous en avons parlé tout à l'heure avec ses rêves et tout cela, et l'action que l'Évangile nous montre. Mais alors, une famille, il a grandi. Jésus, Dieu s'est incarné dans une nature humaine. Jésus mangeait. Alors, le père de famille assure la protection et tout ce qui est de la famille. Le père nourricier, qui a nourri la famille dans les premières années, jusqu'à son enfance, jusqu'à 12 ans, le père nourricier, mais c'est lui. Alors donc, au niveau matériel, il faut y penser aussi. Jésus pouvait choisir notre chemin, Eric, mais il a choisi le chemin de notre chair humaine. Donc, il est resté dans une famille, il est resté avec Marie, il allait travailler pour gagner son pain et pour nourrir la sainte famille. Alors, donc voilà, c'est pour cela qu'on dit nourricier, protecteur. Moi, je prends les deux, je fais comme Saint-Maximilien Marie Kolb, la couronne rouge, la couronne blanche, je prends les deux, mais quand je rentre dans le domaine même du plan du salut, c'est le protecteur du plan de Dieu.
Et c'est ça qui doit dominer. Eh bien, nous allons parler en seconde partie d'émission de la place que tient Joseph aujourd'hui parmi les saints, du culte et des dévotions qui lui sont rendues. Je vous propose en attendant d'écouter un chant traditionnel qui lui est dédié. Il a pour titre « Aimable Saint, ô Saint Joseph » et il est interprété ici par les petits chanteurs du Mont-Royal.
Thank you.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour la seconde partie de ce numéro de Vivante Église consacré à Saint Joseph que nous avons fêté la semaine dernière le 19 mars. Je suis toujours avec le Père Clément Bonou, membre de l'Institut des Frères Franciscains de l'Immaculée. Père Clément, quelle place tient aujourd'hui Joseph parmi les saints et à partir de quelle époque un culte va-t-il lui être rendu au sein de l'Église, celui-ci ayant évidemment évolué au fil du temps?
Quand on veut parler de dévotion dans l'Église, il faut ajouter le terme de progression. Et tout a été progressif hein, et dans l'Église. Et surtout, la dévotion à Saint Joseph, c'est une dévotion progressive. Et c'est comme une plante, quoi. Quand la racine s'enfonce doucement, et puis l'arbre. Et c'est cette comparaison que je peux faire pour la dévotion à Saint Joseph. Vous savez, les premiers siècles de l'Église sont surtout centrés sur le Christ, hein. Le Christ et la Vierge Marie. Ce n'était pas la préoccupation des auteurs, de la théologie, des évangélistes dans le temps et aussi des premiers chrétiens. Joseph est évoqué, mais son culte se développe plus tardivement. Et on sait quand même qu'au Moyen-Âge, notamment grâce à certains saints et des ordres religieux, on commence à insister davantage sur la figure de Joseph comme protecteur de la Sainte Famille, on en a parlé dans la première partie de cette émission, et modèle pour les pères de famille. Et ce que je peux dire, c'est qu'on sait au moins dans les ouvrages et dans l'histoire qu'au 7e siècle et au 8e siècle, il y a eu des fêtes locales de Saint-Joseph en Orient et en Occident, et cela s'est établi progressivement. Là où on a commencé par être plus formel, parce qu'au 1er siècle, on parlait plutôt de Jésus et des martyrs. On ne faisait pas attention aux autres éléments de la dévotion. Ce qui va marquer l'histoire, et on le doit aussi à la France, hein, parce que c'est pour cela que le pape Jean-Paul II qualifie la France de fille aînée.
Fille aînée d'Église.
De l'Église. Et c'est dans plusieurs domaines, hein. Alors, il a fallu, surtout au 15e siècle, un théologien français du nom de Jean Gerson. C'est lui qui a écrit le tout premier livre sur Saint Joseph. Et il a fait aussi, disons, l'avocat de Saint Joseph au concile de Constance, qui a eu lieu de 1414 à 1418. Et il demandait déjà à ce concile qu'on dégage une fête particulière pour Saint-Joseph. Et déjà, le concile de Constance en parlait. Mais il faut attendre, c'est l'avis de l'Église, il faut attendre encore jusqu'au XVIIe siècle pour que les choses se concrétisent, surtout les papes Grégoire XV et Urbain VIII vont rendre un culte de solennité à Joseph et rendre obligatoire dans toute l'Église eh bien, le culte à Saint Joseph. La fête a été fixée au 19 mars. Pourquoi ?
Mais c'est très tôt ça en fait, c'est dès l'an 800 je crois que la fête est fixée le 19 mars.
Mais ce n'est pas souci de logique, de chronologie et même pas liturgique tout simplement. Dans les faits, l'Église travaille avec l'Esprit Saint. Hein. Pourquoi le 19 mars ? Il ne faut pas diviser ce que Dieu a uni. Alors, le 19 mars est bien lié au 25 mars. Le 25 mars, c'est l'Annonciation. Et l'Annonciation, 25 mars, nous sommes logiquement à 9 mois de Noël. Et c'est la période classique d'une grossesse. Alors, l'Annonciation, l'ange qui parle à la Vierge Marie, et nous allons célébrer cela à Noël. Et avant l'Annonciation, qu'est-ce qu'il y a eu ? Marie n'est pas une sorte de génération spontanée comme cela. Eh bien, c'est pour cela que déjà les chrétiens, les premiers chrétiens, célébraient déjà le 19 mars. Pourquoi mars ? Vous voyez déjà la distance, le lien avec l'incarnation du Verbe. Et vous voyez, on a célébré 19 et une semaine après, l'Annonciation. Et la présence de Saint-Joseph toute sa sagesse comme homme juste dans le plan de Dieu avant l'Annonciation. C'est ce que les chrétiens ont compris et ont commencé par célébrer. D'où la fixation, j'allais dire, de cette date qui est bien liée à la Vierge Marie, qui est bien liée aussi au plan de Dieu, le plan de l'incarnation. Donc je reviens, c'était une parenthèse, et pour répondre à votre question de cette dévotion progressive à Saint-Joseph. Donc il y a eu, avec les papes Grégoire XV et Urbain VIII, la célébration de la solennité de Saint-Joseph qui est rendue obligatoire pour l'Église universelle. Mais il faudrait aussi dire que déjà en Espagne, Sainte Thérèse d'Avila a également contribué à populariser.
Oui, parce qu'elle lui a dédié plusieurs couvents.
Ah mais oui, et oui, Sainte Thérèse d'Avila avait une grande dévotion à Saint-Joseph comme protecteur de ces couvents qu'elle réformait.
Oui, parce qu'elle en a fait le protecteur de l'ordre des Carmes Deschaux.
Exactement, exactement. Et je crois quand même qu'elle ne s'est pas trompée.
Oui, oui, oui. Les Jésuites aussi le considèrent comme leur protecteur.
Ben oui, justement. Et puis, ce n'est pas seulement les Jésuites. Il y a beaucoup de congrégations religieuses. Mettez dans votre navigateur Google, Sœur de Saint-Joseph, Frère de Saint-Joseph.
Oui, oui.
Il y a tant de
beaucoup.
Congrégations
oui, oui.
de Saint-Joseph. Et puis, et qui reprennent tout simplement celui qui a été le plus silencieux possible dans les évangiles pour vivre son charisme de discrétion, d'ouverture à la volonté de Dieu et d'obéissance à la volonté de Dieu, au plan de Dieu dans sa vie. Alors, je vais finir pour cette question de cette dévotion progressive à Saint-Joseph. Arrivons au 19e siècle, en 1870, surtout avec le pape Pie IX, et qui va proclamer Saint-Joseph patron de l'Église universelle. Et depuis cette proclamation, la dévotion à Saint-Joseph, vraiment, a monté. Et si vous voyez l'histoire de ces congrégations religieuses et qui ont comme saint patron Saint-Joseph, c'est à partir de là. Et jusqu'à Pie XII, en 1955, nous célébrons aujourd'hui le 1er mai, Saint-Joseph travailleur, et ça vient de Pie XII. Voyez, cette progression de la dévotion à Saint-Joseph le présente aujourd'hui comme, j'allais dire, une figure centrale de la foi chrétienne. Une figure centrale en ce sens qu'il est célébré, on célèbre son humilité, sa fidélité et son rôle de protecteur, comme vous l'avez dit, de la Sainte Famille.
Oui, et le successeur de Pie XII, Jean XXIII, en 1962, a même ajouté le nom de Saint-Joseph au canon de la messe. Un fait important que je voulais rappeler, là on est dans le champ profane, mais tout de même, en 1661, Louis XIV devient père pour la première fois.
Ah oui.
Et il décide de consacrer la France à Saint-Joseph, le chef de la Sainte Famille.
Ah oui, je l'apprends de vous et ça nous honore. Et que ce n'est pas seulement dans le rang de l'Église, des saints et des ordres monastiques, mais aussi Saint-Joseph se fait voir, Dieu fait voir cette dévotion dans le cœur même des laïcs, entre guillemets, parce que le roi Louis est une figure de laïc avec sa foi et la puissance de Dieu qui se déploie aussi dans les choses de la terre. Eh bien, c'est une référence merveilleuse.
Une chose très peu connue concernant Saint-Joseph, sauf de certains initiés comme vous l'êtes, c'est qu'à travers le temps, il y a eu des apparitions de Saint-Joseph, et l'Église en a reconnu quatre.
Oui, Eric, l'Église reconnaît officiellement plusieurs apparitions où Saint-Joseph est présent aux côtés de la Vierge Marie ou avec Jésus. Vous savez que l'Église prend du temps pour reconnaître les apparitions.
Toujours.
Et il y a tellement de règles. Alors, les apparitions qui sont reconnues, on peut retrouver au moins quatre. La première, c'est toujours la France.
Et oui.
Bien heureuse.
Et justement, c'est l'année qui précède 1661. C'est en 1660, le 7 juin, à Cotignac, c'est dans le Var, pour ceux qui ne le savent pas.
Exact.
Et donc, juste avant que Louis XIV consacre, c'est sans doute lié, je l'imagine, il y a cette apparition à Cotignac. Alors, à qui apparaît-il, en fait, Saint-Joseph?
Oui, je vais résumer. Il y a eu l'apparition à un berger. À un berger, Joseph est apparu et a demandé la construction d'une chapelle. Et il y a eu cette obéissance. Et nous voyons aussi la floraison aujourd'hui, de grâce dans ce lieu, et l'intercession de Saint-Joseph.
Oui, parce qu'on y vénère aussi les apparitions de Notre-Dame de Grâce. ainsi que la Sainte Famille, donc dans cette église Notre-Dame de Grâce. Il y a une source aussi qui avait jailli à l'endroit de l'apparition et qui coule toujours.
Joseph a demandé à ce berger et puis il a obéi et puis voilà.
Après les trois autres apparitions.
Il y a aussi une apparition. Il y a une apparition en Pologne, mais oui, qui est très localisée. Eh bien, bon, ce n'est pas que ce n'est pas reconnu, mais déjà au niveau de la dévotion locale, elle est reconnue. Donc, je passe au niveau de la Pologne. Allons en Irlande. En 1879, à Knock, il y a eu l'apparition silencieuse. Saint Joseph est vu aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Jean l'Évangéliste et de l'agneau pascal. Et c'est une apparition silencieuse de Saint Joseph. Alors, il continue encore sa discrétion et son silence. Hein,
toujours l'humilité de Saint Joseph.
Même dans les apparitions aussi. Alors, depuis 1879, combien de pèlerinages, combien de miracles en ce lieu pour vénérer Saint Joseph? Vous savez, les saints nous orientent toujours vers Dieu. Et puis, il y a deux autres apparitions. L'apparition de Fatima au Portugal, c'est en 1917.
Au moment des dernières apparitions mariales.
Exactement. Et c'est la dernière apparition en octobre 1917. Joseph apparaît tenant l'enfant Jésus,
dans
bénissant la foule. Alors ça, cette apparition est certifiée et on a la documentation. Bon, il y a une apparition récente, et ça c'est au Brésil, c'est en 1998. Alors, Itapiranga, cette apparition de Saint-Joseph, cette apparition a été reconnue localement. Et Saint-Joseph donne des messages sur la prière et la famille. Eh bien, voilà un peu, je ne sais pas encore si d'autres apparitions existent, mais je crois que ces apparitions, substantiellement, montrent la présence discrète, efficace et agissante de Joseph.
Et protectrice toujours. À propos de protection, Joseph, saint patron. Il est le saint patron de combien de familles, congrégations aujourd'hui? C'est vraiment très impressionnant.
C'est énorme, énorme, parce que quand vous voyez, mettez seulement les saints patrons et chaque congrégation religieuse aujourd'hui, depuis la proclamation en 1870 de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, eh bien, combien de congrégations, combien de familles, combien d'ordres religieux, combien même de villes ont eu comme saint patron Saint Joseph. Il est aussi patron des familles, hein, des pères de famille, des orphelins et des plus nécessiteux, car il protège l'enfant Jésus et la Vierge. C'est pour cela qu'il est déclaré patron des familles. Il est aussi patron des travailleurs.
Et des artisans, bien sûr.
Et des artisans.
Ah,
et
oui,
là, c'est cette fête du 1er mai que nous devons au pape Pie XII depuis 1955. Et aussi, Saint Joseph est patron d'une bonne mort.
Oui,
oui.
Ça, il faut expliquer, c'est très important ça.
Oui, la tradition veut qu'il soit mort entouré de Jésus et de Marie.
Et de Marie.
Et si, ce que nous avons dit dans la première partie de l'émission, il est probablement mort avant la vie publique de Jésus. Donc, si la vie publique de Jésus a commencé avec Marie, ça veut dire que Jésus était toujours dans la Sainte Famille, a grandi, a appris le métier de charpentier, entre griffes, de Joseph. On voit les images d'ailleurs. Eh bien, Joseph est mort dans la présence de Jésus et de Marie. Et quoi de plus beau? Vous voyez, Padre Pio, à sa mort, disait Jésus-Marie. Voilà les deux mots qu'il prononçait. Alors, mourir, quitter cette vie dans ces conditions merveilleuses, c'est cela que beaucoup nous pouvons souhaiter. Souhaiter mourir en présence de la grâce de Dieu, de Jésus et de Marie. C'est pour cela que le premier qui a bénéficié de cette grâce, on suppose, même chronologiquement, eh bien, c'est Joseph. Et on demande son intercession pour une bonne mort. Mourir dans la paix de Dieu en présence de Jésus
et de Marie. C'est ce que nous tous souhaiter
exactement,
pour nos proches, bien sûr. On a évoqué plusieurs papes en parlant des dévotions qui sont rendues à Saint-Joseph il y a quelques minutes. Il y en a un dont on va parler peut-être encore plus que les autres, c'est Jean-Paul II, puisque Jean-Paul II a fait de Saint-Joseph le patron du troisième millénaire et le patron de la nouvelle évangélisation. Pourquoi Jean-Paul II était-il donc si attaché à la figure de Saint-Joseph ?
Il faut partir de sa dévotion particulière et son leitmotiv, j'allais dire, pour utiliser les termes actuels, « Totus tus, tout à toi Marie ». Eh bien, là où les saints nous disent, hein, Eric, là où il y a Marie, Jésus est là. Et Saint-Joseph n'est pas loin.
Oui, et on sait à quel point Jean-Paul II était aussi très attaché à la Vierge Marie.
À la Vierge Marie. Donc si Jean-Paul II est si attaché à la Vierge Marie, il ne peut pas ne pas être attaché à Saint-Joseph, comme nous l'avons dit dans la première partie de notre congrégation de dévotion mariale. Mais ça, c'est des liens qu'on peut faire. Mais c'est concrètement aussi Jean-Paul II, dans son exhortation apostolique Redemptoris Custos, et c'est en 1989, Jean-Paul II présente Joseph comme gardien du Rédempteur. Et il appelle même Minister Salutis, c'est-à-dire le serviteur
du salut.
Jean-Paul II a été aussi, à la suite des autres papes, un propulseur de la dévotion à Saint-Joseph. Il souligne dans ce document l'intériorité, l'obéissance à la parole de Dieu et propose Saint-Joseph comme modèle pour tous les croyants. Et Jean-Paul II qui propose encore Saint-Joseph comme modèle pour tous les croyants. Jean-Paul II le considère comme un modèle pour la nouvelle évangélisation. Et il le propose comme patron du troisième millénaire, car Joseph incarne la force tranquille et la foi au quotidien. Voilà Joseph.
Pour terminer cette émission, je vais citer Jean-Paul II. Voilà ce qu'il dit à propos de Saint-Joseph. « Nous voyons comment la parole du Dieu vivant tombe profondément dans l'âme de Joseph. L'accueillons-nous, cette parole, intérieurement prêt, comme Joseph ?» Qu'est-ce que vous répondriez à cette question ? Est-ce que nous l'accueillons, cette parole, intérieurement prêt, comme Joseph ? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Joseph, en fait, aujourd'hui ?
Je crois que pour répondre à cette question et pour accueillir la parole de Dieu comme Saint-Joseph, il faut utiliser aussi les moyens que Saint-Joseph a utilisés. L'humilité, la disponibilité et l'ouverture à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous en avons besoin. Et Eric, nous le prions tous les dimanches et tous les jours dans le Notre Père. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Et Joseph a été l'élément principal et qui a utilisé ce moyen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qui l'a fait ? Et tu entends cette motion intérieure de la voix. Alors, n'hésite pas à prendre chez toi Marie, car ce qu'elle porte vient de Dieu. Eh bien, pour répondre à cela, il faudrait utiliser les moyens de la grâce, les moyens d'ouverture, les moyens de simplicité, de perméabilité à la grâce de Dieu communautaire pour porter du fruit.
Et voilà pourquoi Jean-Paul II fait de Saint-Joseph le modèle du témoin du royaume de Dieu, le serviteur du salut, comme vous l'avez dit. Eh bien, on va conclure cette émission là-dessus, ça me paraît une très bonne chute. Merci beaucoup Père Clément d'en avoir été l'invité et merci de nous avoir mieux fait connaître Saint-Joseph. On peut bien sûr se référer à tous les écrits que lui a consacrés le pape Jean-Paul II pour prendre toute la mesure de l'importance de ce saint dans l'Église catholique aujourd'hui. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.